Laudetur Jesus Christus.
Plus de 1000 civils tués en 3 jours dans l'ouest de la Syrie dans des massacres qui ont visé principalement la minorité alaouite. Des violences communautaires sanglantes qui rappellent les pires heures du pays et qui inquiètent la communauté chrétienne en particulier. Témoignage au début de ce journal. Les Américains et les Ukrainiens se retrouvent demain en Arabie Saoudite pour de premières discussions depuis la rupture Trump-Zelensky. Kiev doit présenter une proposition de trêve. Comment les Ukrainiens voient-ils ces négociations avec Washington? Reportage à suivre dans la ville d'Odessa. À la une de ce journal également, l'Irak contrainte de diversifier ses approvisionnements en énergie depuis que l'Iran n'a plus l'autorisation de lui vendre son électricité. Et puis nous irons également en Argentine à la fin de ce journal où ces graves inondations ont fait au moins 16 morts et des dizaines de disparus.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir, il est 18h à Rome et une nouvelle prière du chapelet vient de débuter en ce moment depuis la salle Paul VI du Vatican pour le rétablissement du pape François. Il était jusqu'ici d'ordinaire récité sur la place Saint-Pierre à 21h. Cette prière pour la santé du souverain pontife suit les exercices spirituels de carême de la curie organisés dans la même salle au Vatican. Ce sera le cas jusqu'à jeudi. Les nouvelles modalités du chapelet récité à partir de vendredi seront communiquées ultérieurement. Ce lundi, la salle de presse du Saint-Siège a précisé que le pape, après une nuit tranquille, avait pu suivre ses exercices spirituels en communion depuis l'hôpital Gemelli, depuis un fauteuil. Le Saint-Père qui poursuit ses thérapies motrices et respiratoires et dont les conditions cliniques sont toujours stables. Un nouveau bulletin médical est attendu plus tard dans la soirée. Nous y reviendrons évidemment plus largement dans nos prochaines éditions. Au sommaire de l'actualité internationale, la Syrie où les fantômes du passé ressurgissent après les massacres commis ce week-end dans des bastions alaouites du pays, principalement sur la zone côtière. Ce lundi, le ministère de la Défense a annoncé la fin des opérations militaires contre ceux qui sont restés fidèles à Bachar al-Assad. Plus de 1000 civils ont été tués selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Pour le frère Georges Sabé, mariste qui vit à Alep, il y a urgence à protéger les minorités du pays et à ce que les autorités syrienne dominée par le groupe islamiste HTC engage la Syrie dans un vrai processus de réconciliation.
On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il y ait encore des vengeances. Il nous faut une justice. Il nous manque énormément une proposition de réconciliation. Il n'est pas possible de vivre dans une réalité de peur, de menaces et d'atrocités. Il nous faut tout un travail de réconciliation à l'intérieur de la population syrienne. Et deuxième point, je crois, de justice basée sur une loi, basée sur une constitution que nous n'avons pas jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons besoin aussi d'une pression internationale parce qu'il n'est pas possible que les autorités internationales ne disent pas leur mot à l'autorité locale pour préserver, empêcher qu'il y ait d'autres massacres dans le pays.
Le frère mariste Georges Sabé, joint à Alep par Jean-Benoît Arel et qui sera l'invité de notre dossier demain matin. Les patriarches des principales églises syriennes qui demandent également aux autorités du pays de faire revenir l'ordre en Syrie. Les couleurs du drapeau ukrainien flottent ce jeudi à Jeddah en Arabie Saoudite. Et pour cause, le président Volodymyr Zelensky est arrivé ce lundi dans le royaume où se tiendra demain les premières discussions entre Ukrainiens et Américains. Kiev doit proposer une trêve dans les airs et en mer, un cessez-le-feu qui peut être un préalable de vraies négociations, selon eux, pour une paix juste. À l'image de cette visite de Volodymyr Zelensky en Arabie Saoudite, plusieurs étapes vers la paix ont été franchies ces derniers jours sur le plan diplomatique. Mais pendant ce temps-là, la guerre continue de faire des victimes. Qu'attendent réellement les Ukrainiens de cette visite de leur président en Arabie? Reportage dans la ville d'Odessa de Bastien Bory.
D'ordinaire taciturne, les langues des Ukrainiens se délient ces jours-ci. Beaucoup soutiennent leur président, ses dernières prises de position et son calme face à Donald Trump, Yuri, Anatoly et Alina.
Zelensky est un grand président. C'est lui qui nous mènera à la victoire. Donald Trump, lui, n'est qu'un populiste qui fait du bavardage.
Volodymyr Zelensky a toute ma confiance. Il est toujours resté dans son pays. Il soutient la cause nationale et il n'a aucunement peur de Donald Trump.
Je pense qu'il est le seul président dans l'histoire de ce pays qui a été capable de refléter la vraie opinion des Ukrainiens.
Toutefois, bien que patriote, certains, comme cet ingénieur ukrainien francophone, voient les dés pipés et la diplomatie dépassée et sont persuadés que la guerre ne fait que commencer.
Je ne veux pas perdre mes enfants à cause de M. Poutine. Je veux vivre vers les petits-enfants. Je veux les petits-enfants. Et je veux que la guerre s'arrête.
En attendant de savoir ce que Volodymyr Zelensky ramènera de sa visite à Jeddah, les Ukrainiens continuent de pleurer leur mort et d'être réveillés en sursaut chaque nuit par les sirènes d'alerte antimissiles. Bastien Bory, Odessa, Radio Vatican.
Et le secrétaire d'État américain Marco Rubio, en vol vers l'Arabie Saoudite, lui dit avoir bon espoir de résoudre la question de la suspension de l'aide américaine à Kiev annoncée la semaine passée par Donald Trump. Près de 400 000 Soudanais sont rentrés chez eux ces trois derniers mois depuis la reprise de certaines zones par l'armée soudanaise dans le centre du pays, notamment des chiffres donnés ce lundi par l'OIM, l'Organisation Internationale pour les Migrations. Cette terrible guerre civile soudanaise a plongé 25 millions de personnes dans une crise humanitaire sans précédent. L'Iran condamne une décision illégale, celle prise par les États-Unis de vendre de l'électricité à son voisin irakien. Frappé par les sanctions internationales, Téhéran bénéficiait jusqu'ici de dérogations lui permettant d'exporter gaz et électricité vers l'Irak. Une décision qui contraint Bagdad à revoir sa politique d'approvisionnement énergétique. Les précisions de notre correspondante Anne-Sophie Lomouf.
Après 7 années d'exemption, l'Irak ne peut désormais plus acheter de l'électricité à l'Iran, pays voisin sous sanctions américaines. Le département d'État américain n'a pas renouvelé la dérogation accordée à Bagdad et appelé le gouvernement irakien à mettre fin à sa dépendance aux sources énergétiques. Les importations de gaz et d'électricité de l'Iran représentent un tiers des besoins énergétiques de l'Irak, selon Washington. Bien que doté d'immenses richesses pétrolières, l'Irak connaît depuis plusieurs dizaines d'années des problèmes d'alimentation électrique chroniques dus à des infrastructures défaillantes et capacités de production insuffisantes engendrées par des décennies de guerre. Le gouvernement irakien mise donc sur l'autosuffisance énergétique d'ici 2028. Bagdad souhaite mettre un terme au torchage de gaz et ainsi exploiter le gaz brûlé sur les champs pétroliers et l'utiliser pour alimenter ses centrales électriques. En attendant, face à l'arrivée des vagues de chaleur estivales, l'Irak devra se tourner vers des fournisseurs d'électricité indépendants de la région kurde du nord irakien ou augmenter ses importations d'électricité turque. À Bagdad, Anne-Sophie Lemoff pour Radio Vatican.
L'ONU ne cache pas son inquiétude après la décision hier par Israël de couper l'approvisionnement en électricité de la bande de Gaza. Sans électricité, avec le carburant bloqué, les dernières usines de dessalement, établissements de santé, boulangeries de Gaza risquent de fermer, alerte le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. De graves inondations en Argentine, en particulier dans la région de Bahia Blanca, 600 km au sud de Buenos Aires. Le dernier bilan est lourd, au moins 16 morts et des dizaines de disparus. 3 jours de deuil national ont été décrétés dans le pays, ce qui n'empêche pas les polémiques et la colère contre l'administration du président Milei. À Buenos Aires, Caroline Vic.
400 mm d'eau sont tombés à Bahia Blanca en quelques heures, l'équivalent d'un an de pluie pour cette ville du sud de la région de Buenos Aires. Les dégâts matériels sont considérables et le bilan humain est très lourd. Pour l'heure, les pompiers et l'armée se concentrent sur la recherche des disparus, notamment de 2 fillettes, 2 sœurs, emportées par le courant et la boue. Dans tout le pays, les campagnes de dons s'intensifient et les coordonnées de 2 comptes bancaires circulent également sur les réseaux sociaux et dans les médias. Et 5 jours après les violentes précipitations, 65% de l'électricité a été rétablie, mais les habitants sont en colère contre le gouvernement. D'abord parce que cette dernière année, le libertarien Milei a paralysé les travaux publics, considérant que c'est au secteur privé de construire les installations nécessaires. Les infrastructures qui auraient été nécessaires pour éviter le désastre n'ont donc pas été réalisées. Et puis pour baisser les dépenses publiques, le gouvernement a fermé il y a quelques semaines la Direction nationale des urgences, un organisme proposant une aide de l'État en cas de catastrophe naturelle. Javier Milei ne s'est pas encore rendu à Bahia Blanca, mais y a envoyé 2 de ses ministres qui ont été sifflés par les habitants. Le président a tout de même annoncé une aide financière exceptionnelle pour la reconstruction et a décrété 3 jours de deuil national. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
Et ce matin, le pape François a exprimé sa proximité envers les sinistrés de son pays natal, a rapporté la salle de presse du Saint-Siège dans la matinée. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous demain matin à 8h30 heure de Rome. Excellente soirée.